Je vais déjà vous saluer en attendant. Bonjour à chacun et bienvenue effectivement dans ce temps qui précède un moment particulier que nous voulons célébrer à Noël, la naissance de Jésus-Christ. Alors, une simple question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de se rendre à Genève? Nous avons eu plusieurs lieux géographiques qui ont été évoqués, le Népal, les différentes nations, l'Angleterre. Mais à Genève, il y a un monument qui est particulièrement impressionnant et qui a été construit au début du 20e siècle, je vais y arriver. 25e siècle, on n'y est pas encore. Entre 1909 et 1917, savez-vous lequel? Le mur des réformateurs. Entre 1909 et 1917, le mur des réformateurs a été construit et vous avez sur ce mur, devant, les statues de quatre hommes qui ont marqué le protestantisme en Suisse, en France, en Écosse. Vous avez Guillaume Farel, l'évangéliste bouillant. Vous avez le théologien rigoureux Jean Calvin, qui a marqué Genève de son empreinte. Son successeur Théodore de Bèze, et puis, juste à côté, John Knox, qui a été le réformateur de l'Église en Écosse. Et Knox a été à l'origine du Book of Common Prayer, qui est largement utilisé dans l'Église anglicane. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que le long de ces quatre hommes, vous avez une devise qui a été reprise sur le blason de Genève, qui dit le texte suivant, « Post tenebras lux ». Y a-t-il des latinistes parmi vous qui savent ce que ça veut dire ? Après les ténèbres vient la lumière. Une telle devise a largement inspiré les idées des réformateurs. Ils avaient le souci de revenir à une foi authentique, alors que le monde environnant était marqué par un manque de fidélité à la parole, par des principes qui éloignait les hommes de Dieu. Les réformateurs ont réaffirmé cinq valeurs essentielles. L'Écriture seule, la grâce seule, la foi seule, Christ seul et à Dieu seul, la gloire. Un retour sur l'essentiel. C'était là l'incarnation de cette devise, post tenebras lux, après la lumière, les ténèbres. Ou le rappel, pour le dire autrement, du plan du salut par pure grâce. Dieu sauve. Voilà le sens premier du passage qui va nous conduire ce matin. La suite du message du prophète Ésaïe qui nous décrit la ruine, les ténèbres, la déchéance totale du peuple. Pendant 22 versets, les 22 premiers versets du chapitre 8. Et puis, changement radical. Un claquement de doigts, et tout change, après les ténèbres, la lumière. Au verset 23, le message du salut est clairement annoncé, se poursuit jusqu'au chapitre 9 avec un portrait remarquable d'un enfant qui va venir. Un enfant qui nous est donné, un fils qui est amené à conduire son peuple. Il y a là une annonce prophétique remarquable de qui est Jésus-Christ. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à suivre avec moi la lecture d'Ésaïe 8, les versets 1 à 23, et d'Ésaïe 9, les versets 1 à 6. Ésaïe, chapitre 8, les versets 1 à 23 et 9, 1 à 6. L'Éternel m'a dit, « Prends un grand cylindre et écris dessus avec un burin ordinaire, Amaher, Shal, Shash, Baz. » Je veux prendre pour témoin deux hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je me suis uni à la prophétesse, elle est tombée enceinte, elle a mis au monde un fils, l'Éternel m'a dit, appelle-le Maher, Shalal, Shash, Baz. En effet, avant que l'enfant sache dire « Papa, maman », on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. L'Éternel m'a encore parlé. Il a ajouté. Puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé, qui coule doucement, et a éprouvé de la joie en pensant à Retsin, au fils de Remalia. Le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux, débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, submergera, l'inondera jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout son territoire. Emmanuel, poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le maître de l'univers que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont, se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel. Même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le maître de l'univers qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent des esprits, et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, il maudira son roi et son dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et ne verra que détresse, obscurité, sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays. De l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera Merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Cinq points pour nous conduire à partir de ce texte, trois qui font le constat que nous sommes dans les ténèbres sur les 22 premiers versets du chapitre 8. Tout d'abord, on va s'arrêter sur les ténèbres, un nom au sens prophétique dans les versets 1 à 4. Les quatre premiers versets remettent en scène Ésaïe et son fils. Mais cette fois-ci, c'est le deuxième fils. Ceux qui étaient là la semaine dernière se souviendront que Matthieu nous avait rappelé que le premier s'appelait Shéar-Yachoub, dont le nom signifiait « un reste reviendra » ou « un reste se convertira ». Il y a déjà là, au milieu de tous ces oracles de détresse, une place pour la grâce divine. Le message qu'Ésaïe a porté avec son fils premier-né nous rappelle que malgré les ténèbres, Dieu reste patient et est capable de faire grâce. Le message était adressé à Akaz, le roi. C'était un message de repentance, de retour à Dieu. Mais il s'entête. Et voilà qu'Ésaïe est chargé de lui annoncer un nouveau signe avec le nom du deuxième fils qui n'est pas encore né. Il s'appellera Maher Shaal Ash-Baz. Le nom signifie clairement « vite au butin, en hâte au pillage ». Impressionnant. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude d'appeler nos enfants comme ça. « Vite au butin, en hâte au pillage ». Les ténèbres, la désolation, la ruine vont se manifester. Avant même que le fils ne soit né, avant même qu'il ne puisse appeler papa, maman, la ruine, la désolation sera nécessaire. En même temps, Ésaïe insiste pour susciter deux témoins avant l'accomplissement de sa prophétie, sans doute pour lui donner un peu plus de crédit. Les deux témoins, le prêtre Uri, il en est question aussi dans le livre des Chroniques, au service du roi, et Zacharie, ce serait visiblement le beau-père du roi. Des hommes qui sont dignes de foi, puisqu'Akaz ne se confie qu'en la parole des hommes et ne tient pas compte de la parole de Dieu. Si deux témoins sont là pour appuyer encore plus le message d'Ésaïe, c'est qu'il a du sens. Le royaume du sud, le royaume de Juda, auquel Ésaïe s'adresse, ne sera pas épargné. Vous vous souvenez ce que nous avons vu la semaine passée au chapitre 7. Il y avait Israël qui avait fait alliance avec les Syriens pour pouvoir défaire Juda. Et le roi Akaz veut s'allier cette fois-ci à l'Assyrie, aux Assyriens, autre peuple. Pas forcément facile de suivre. Mais que dit Ésaïe dans ce passage ? Revenez à Dieu. Ne cherchez pas des alliances avec les hommes, cherchez des alliances avec Dieu. Parce que l'Assyrie, qui est la grande puissance mondiale, va renoncer à son alliance pour entrer dans une logique guerrière, une volonté de conquête, et le royaume de Juda va souffrir. Il y aura un siège. Jérusalem va souffrir. Mais le roi et son peuple, s'ils choisissaient de revenir à Dieu, s'ils avaient écouté le signe avec le nom du premier fils, peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Mais non, ils s'entêtent. Et donc il faut un deuxième signe. Vite au butin, en hâte au pillage, va toucher l'ensemble du peuple de Dieu. Pas seulement le royaume du nord, mais aussi le royaume du sud. Pourquoi ? La ruine est là parce qu'ils rejettent l'alliance avec Dieu. Voilà ce qu'on peut retenir du nom des deux fils d'Ésaïe qui ont leur importance. Les ténèbres, toujours les ténèbres, avec cette fois-ci des oracles de malheur qui continuent. Les eaux qui abreuvent Jérusalem. Le réservoir de Siloé ne suffira pas devant toute la vague assyrienne qui est représentée par le fleuve l'Euphrate qui va déborder pour engloutir tout le royaume. Non seulement Ninive va conquérir le royaume du Nord, déporter toute la population, et ça, ça se passera en 722. Mais près de 20 ans après, le siège va se manifester, les Assyriens vont rompre cette alliance. Il y a là un drame qui est annoncé. En une dizaine de versets, des oracles de malheur vont se produire. C'est la catastrophe. Jérusalem ne va pas tenir ferme. Jérusalem va devoir capituler. Les ténèbres sont là. La ruine du peuple de Dieu est présente. Les ténèbres, voilà la ruine du peuple de Dieu qui se manifeste. Les ténèbres sont présentes. Il y a même une évocation dans les versets 16 à 22 des pires choses que pourrait faire le peuple. L'occultisme, consulter des devins, des spirites. Qu'est-ce qui est dit dans le Deutéronome, chers amis? Qu'est-ce qui est rappelé? Il est rappelé que ceux qui consultent des devins, ceux qui consultent des spirites, ceux qui cherchent à prédire l'avenir, qui interrogent les morts, seront condamnés. L'Éternel ne veut pas de cela. La ruine est donc totale. C'est une catastrophe. Tout est sombre. On est dans les ténèbres. On dit dans les ténèbres et il y a rejet de l'alliance de Dieu. L'échec du peuple de Dieu est total. C'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'alliance est rompue. Plus d'espoir, plus rien. Si on arrêtait la lecture au verset 22, ce serait vraiment la catastrophe. Mais il y a, même dans les oracles de jugement, même dans les moments de détresse les plus profonds, il y a une place pour la grâce. La lumière va se manifester. Voilà ce que nous rappelle le début, la fin du chapitre 8 et le début du chapitre 9. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y aura maintenant des angoisses. Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, une lumière qui s'est manifestée, une lumière qui est présente. Dans les ténèbres, la lumière arrive. Et elle se manifeste par quoi ? Par une nouvelle naissance. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors certains pensent qu'il s'agit là d'une annonce prophétique qui concerne le roi Ézéchias, le fils d'Akaz, qui sera effectivement un successeur qui va plutôt bien se comporter. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que l'alliance établie avec Dieu par les hommes, que les hommes ont rompu, ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme est obstiné, parce que l'homme est égoïste par nature. Seule une alliance nouvelle peut changer la donne. Et c'est ça ce qui est annoncé avec cette aube nouvelle. Le salut et la victoire vont se manifester par la naissance. Une nouvelle alliance va se réaliser. Voilà quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Et les versets 5 et 6 du chapitre 9 qui terminent notre parcours vont mettre l'accent sur les caractéristiques de ce nouveau-né. 5 titres qui sont donnés. La lumière, qui donc est ce sauveur qui vient vers nous? Jésus, et notre roi. Il portera cette royauté éternelle, sans commencement ni fin. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons ces portraits extraordinaires de Jésus-Christ. Et voilà l'un des premiers. Jésus est notre roi. Par sa naissance, que nous allons célébrer dans quelques jours, il nous est rappelé qu'il est le prophète qui est venu pour éclairer les nations. Par son ministère public, par sa mort sur la croix, il est le sacrificateur et le sacrifice qui permet de nous réconcilier avec Dieu. Et par son ascension, il règne du haut des cieux. Et il est le roi éternel, le seul à avoir cumulé les trois offices, prophète, sacrificateur ou prêtre, et roi, c'est Jésus-Christ. Et il ne pouvait le faire que parce qu'il était pleinement homme, pleinement Dieu. Jésus est donc notre roi. Il est l'héritier de la lignée de David. Quand Dieu a établi David comme roi, il a dit qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône. Une alliance qui préparait cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Deuxième titre qui est donné à Jésus, il est le merveilleux conseiller. C'est lui qui est la lumière, c'est lui qui vient éclairer les hommes et les conduire à découvrir ce beau message de la grâce de Dieu. Jésus est merveilleux conseiller. Il est la lumière qui nous éclaire. Il nous aide à comprendre ce que Dieu attend pour nous. Et puis, Jésus est le Dieu fort, l'Emmanuel, ce Fils qui est attendu, qui est vainqueur du mal. Évidemment, sa victoire s'accomplira au moment de sa mort et de sa résurrection. Pour l'instant, elle est annoncée à titre prophétique. Jésus est Dieu fort. Mais il est également Père à jamais. Il est l'autorité qui sauve les hommes et qui vient leur apporter le salut. Et puis, dernier titre qui est donné à Jésus-Christ, il est le Prince de paix. Il est celui qui donne la paix et le secours. Le seul à pouvoir donner la paix, le seul à pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Par le péché qui nous tenait éloignés de Dieu, nous naissons séparés. Nous n'avons pas de relation, nous n'avons pas de communion avec Dieu. Par l'action de Jésus-Christ, prophète, prêtre et roi, 100% homme, 100% Dieu, le salut est venu jusqu'à nous. Il est celui qui est venu, qui seul pouvait nous sauver. Il est notre roi. Il est merveilleux conseiller. Il est Dieu fort. Il est Père à jamais. Il est Prince de paix. Voilà pourquoi la prophétie de cette naissance d'un enfant ne peut s'appliquer à Ézéchias, parce qu'Ézéchias ne pouvait jamais cumuler ces cinq titres qui seuls s'appliquent à Jésus. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, que retenir pour nous? Il y a là, chers amis, un message qui est essentiel. Post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière, Dieu sauve. Voilà le message, voilà ce qui est au cœur de tout ce chapitre 8 et le début du chapitre 9 d'Ésaïe. Et dans les circonstances qui sont les nôtres, à cette période de l'Avent, c'est important de nous rappeler et de communiquer ce message autour de nous. Dieu sauve encore aujourd'hui par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire. Pas d'autre moyen, pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Eh bien, quand cette période de l'Avent, nous puissions vraiment nous rappeler cela, garder dans nos cœurs avec les bougies que... J'étais trop vite. Avec les bougies que nous voulons allumer, rappelons-nous effectivement que ces bougies célèbrent l'attente. L'attente d'un sauveur, l'attente du seul sauveur pour nous les hommes. Quand vous voyez quatre bougies se consumer, si vous êtes attentif, peut-être les entendrez-vous parler. Et la première à dire ce message, « Je suis la paix ». Mais aujourd'hui, dans les ténèbres, avec toute la morosité que l'on voit, personne ne peut encore conserver ma lumière et je crois même que je vais m'éteindre. Sa flamme peut devenir alors de plus en plus petite et s'éteindre. Et la deuxième bougie répond alors, « Je suis la foi, je suis la plus fragile et je m'éteins rapidement. Un simple souffle, une brise, et elle s'éteint. » La troisième bougie, « Je suis l'amour, je n'ai plus de force. Les hommes me mettent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer leurs proches. » Et les trois bougies sont éteintes. Et voilà qu'un enfant arrive et voit ces trois bougies éteintes et qu'il se pose « Oh, mais pourquoi ne brûlez-vous plus ?» avec beaucoup de tristesse. Mais la quatrième bougie répond « N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, on pourra rallumer les autres bougies. Je suis l'espérance. » Eh bien, que l'espérance ne s'éteigne jamais dans nos cœurs, parce que c'est elle qui nous porte. Qu'en ce temps d'avant, que chacun d'entre nous puisse être l'outil nécessaire pour maintenir l'espérance, l'amour, la foi et la paix. C'est là le message que nous sommes invités à communiquer, c'est là ce que nous rappelle cette période de l'avant. Alors que nous puissions nous rappeler, après les ténèbres vient la lumière. Après la désolation et la ruine vient l'arrivée du Sauveur qui est annoncé. Voilà la vraie lumière de Noël, voilà ce que nous voulons célébrer et nous rappeler. Eh bien, chers amis, que chacun nous aide, là où nous sommes, à être des témoins de cette lumière, et si j'ose le dire, à rayonner comme des flambeaux et à passer le flambeau autour de nous. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci pour ces rappels essentiels, que tu es celui qui vient nous éclairer, que tu es celui qui a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons réconciliés avec toi. Merci pour ce privilège extraordinaire de le savoir. Merci parce que nous pouvons vraiment nous attendre à toi. Tu es celui qui est venu jusqu'à nous par Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est extraordinaire de pouvoir se le rappeler en cet instant. Que tu puisses nous aider chacun à être des témoins fidèles et que tu puisses nous renouveler pour que ta gloire seule se manifeste au travers de nous. Merci parce que nous pouvons nous attendre à toi.